Bonjour à tous. On ne présente plus Guy Gilbert, mais je vais quand même tenter de le faire. Guy Gilbert, on connaît tous le personnage médiatique, mais connaît-on son parcours d'homme de foi et d'action qui a su aller vers les plus pauvres en devenant un des leurs? L'auteur du curé chez les loupards est devenu lui-même un loupard, entre guillemets, un vieux loup de mer des banlieues, pour partager vraiment leur monde. Et c'est le monde des exclus de la société. Il a fondé l'association La Bergerie du Faucon, il y a de nombreuses années, pour les aider à se réinsérer. Bonjour Guy Gilbert.
Bonjour.
C'est un honneur de vous avoir en ligne avec nous.
C'est une joie pour moi.
Ah, merci.
De parler à la Guadeloupe parce que je connais bien la Guadeloupe. J'y suis allé pendant une dizaine d'années, dix ans, je crois. À Gosier, j'étais allé.
Ah bon? Et dans quel but?
Ah ben, c'est pour me reposer. C'est un ami qui m'avait demandé d'y aller. J'y suis allé, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ah.
Comme je déteste l'eau, mais... dès que j'ai pas pied, je coule. Alors, j'allais à Sainte-Anne me baigner parce qu'on a pied pendant longtemps. Mais je nage. Mais dès que je n'ai pas pied, je coule. Alors, Sainte-Anne, c'était ma plage préférée. Bon, vas-y, pose des questions maintenant.
Oui. Alors, pourrais-tu nous parler de ton parcours d'homme de foi? Tu es prêtre, donc à la fois un homme de prière et à la fois un homme d'action tellement atypique. Quelles sont les rencontres qui t'ont inspiré?
C'est pas atypique parce qu'un homme de foi et d'action est absolument un homme de prière en même temps. Alors, c'est pas atypique, c'est ce que doit être un prêtre normalement. Ta question, c'était quoi? Je me souviens plus.
Quelles sont les rencontres qui t'ont inspiré au fil de ta vie?
Mais toute rencontre humaine m'a inspiré. Premièrement, c'est la rencontre de mes parents qui nous ont donné un amour magnifique, qui nous ont élevés. On était 15 enfants. Hein. On était comme les Guadeloupéens, nombreux. Ils nous ont aimés. Ils nous ont appris l'amour en nous le donnant et en suscitant en nous l'amour en nous-mêmes. Et je suis rentré au séminaire, j'avais 13 ans. Quand j'ai annoncé ça à mon père, j'étais insupportable sur les 15 membres de la famille. Et mon père m'a dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça ne va pas durer longtemps. Et quand je suis arrivé au séminaire, il a dit au supérieur, s'il reste 15 jours, ça sera pas mal. Et je suis resté 13 ans d'études au séminaire de Sainte et La Rochelle, en Charente-Maritime. Et puis j'ai terminé mon séminaire en Algérie pendant la guerre et j'ai voulu être prêtre là-bas. Donc j'ai eu un parcours normal, d'un séminariste normal, mais j'ai vécu depuis 51 ans uniquement avec des non-chrétiens.
Ah oui?
Alors je rentre... Oui, puisque en Algérie, il y avait 40 bonnes vieilles qui étaient là, et on était trois prêtres, et 40 bonnes vieilles, mais 20 000 chrétiens étaient partis dans la paroisse, et je me suis occupé de musulmans. Et puis, je suis revenu en France en 70, et là, j'ai vécu avec des jeunes de toute religion, et souvent pas la religion catholique.
Ah oui, donc
j'ai toujours vécu en périphérie, si tu veux, comme dit le pape, ça a été la grâce que le Seigneur m'a envoyée.
Oui, j'imagine que ça donne une foi beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte sur les autres.
Elle n'est pas plus ouverte sur les autres. Elle est ouverte parce que ce sont des humains qui sont abîmés parce qu'ils n'ont pas été aimés. Ils ont besoin d'être aimés profondément pour eux-mêmes. Et la grâce que j'ai eue, c'était de leur apprendre à s'aimer eux-mêmes en les aimant. Voilà, c'est tout simple ça, tout simplement.
Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver au milieu de ces jeunes?
En Algérie, il y a 50 ans, j'ai rencontré un jeune de mariage mixte qui était à 2h du matin dans la rue. J'ai dit, qu'est-ce que tu fous là à 2h? Il m'a dit, je ne veux pas rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. Alors, je l'ai mis au presbytère. Il avait une piaule et je l'ai gardé pendant 5 ans. Et c'est lui qui m'a appris la détresse de jeunes non aimés, de jeunes non désirés, de jeunes qui sont déclassés, alors qu'on appelle délinquants, qu'on appelle loubards, qu'on appelle, on pourrait les appeler n'importe comment. Ce sont des jeunes qui n'ont pas connu d'amour humain et qui ne connaissent donc pas l'amour de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'amour humain. Moi, j'ai connu l'amour de Dieu quand je suis rentré au séminaire parce que j'ai connu l'amour humain par ma famille. Et c'est l'amour humain qui m'a conduit à l'amour de Dieu.
Ah oui, c'est très, j'allais dire, c'est très important alors de passer d'abord par l'amour humain.
Je crois, mais enfin, il y a des gens qui sont convertis qui n'avaient pas d'amour humain. Regarde Tim Guénard par exemple, qui avait été battu, oui. Qui avait été écharpé vivant et qui est devenu un chrétien, un éducateur remarquable. Mais donc la grâce de Dieu peut aller au-delà d'une grâce humaine qui a été manquée. Hein.
Donc en fait, c'est ce jeune, c'est parti de un seul jeune. Ça me fait un peu penser à, enfin, c'est l'abbé Pierre aussi qui a eu un déclic avec une personne dans la misère qui allait se suicider. Donc tout est parti d'une personne et c'est devenu maintenant aujourd'hui plein de jeunes qui viennent vous rencontrer.
Une personne, c'est exact. Une personne qui m'a interpellé, qui a dormi au presbytère pendant 5 ans, et c'est ça qui m'a, Alors, j'en ai trouvé d'autres grâce à Alain d'abord, c'est des copains d'Alain, et puis voilà. Et puis je suis rentré en France, et là, alors je m'occupais d'Algériens qui étaient aimés. La plupart. Je les ai aimés de toutes mes forces. Et ça, c'est 50 ans après, ils s'en souviennent encore. Hein. Et à Paris, quand je suis arrivé en 1970, alors là, je suis tombé dans un monde de la rue avec 4 prêtres qui cherchaient en moto, la nuit, des jeunes perdus pour les apprivoiser et leur trouver un logement. Il n'y avait pas de technique générale comme la DAS ou la PJJ, il n'y avait rien. On allait voir des mecs en prison, simplement, ou dans des centres. Et ces prêtres allaient vers eux, vivant avec eux. Donc j'ai vécu avec des bandes de rue, c'était super chouette, c'était super violent, j'en ai pris plein la gueule, j'ai perdu toutes mes dents, parce que c'était la violence, c'est comme ça. Si je voulais défendre un jeune par rapport à d'autres qui l'attaquaient, eh ben, je me faisais casser la tronche. Et j'ai appris à manier ma droite évangélique, c'est-à-dire mon poing dans la gueule, quand on me faisait expliquer. Quand on me faisait chier, la semaine dernière, j'ai appris ça. Hein. Ça, ouais. En général, on n'apprend pas au séminaire à faire du karaté. Ça, c'est pas l'habitude, ça. Dans l'église, c'est pas l'habitude. Ça viendra peut-être, mais enfin, voilà.
Oui, parce que c'était plutôt dans l'église, t'en la joue droite.
Comment ?
C'était plutôt au séminaire, c'était... j'imagine, t'en la joue droite, si tu, lorsque tu reçois...
Ah ben oui. Ah ben les vieilles me disent toujours, mais quand je dis que j'envoie une droite évangélique dans la gueule d'un mec qui m'a fait chier, qui m'a insulté, elle me dit, mais alors la joue droite, monsieur l'abbé. J'ai dit, écoutez, je connais l'évangile par cœur, chacun l'applique selon sa grâce. Voilà.
Ouais, c'est magnifique.
Et je laisse la vieille sur cette interrogation. Chacun applique l'évangile selon sa grâce. Je n'ai jamais frappé quelqu'un par haine ou par vengeance, mais de temps en temps, quand un jeune dépassait le feu rouge, alors je lui rentrais dedans. Voilà, c'est tout. Mais j'ai appris ça à Paris parce que je m'étais jamais battu avant.
Et c'est là que tu as appris le langage de la rue.
Et j'ai appris, quand je parlais, les gens me disaient, mais il faut un dictionnaire pour te comprendre, ou deux ou trois dictionnaires. Alors, et j'ai aimé la parole de Jean-Paul II qui disait aux prêtres, vivez l'inculture de votre peuple. Voilà. C'est-à-dire, vivez la culture de votre peuple. Apprenez les mots de votre peuple, c'était tout. Comme j'ai appris l'arabe en Algérie, et j'écris toujours l'arabe, j'ai appris en même temps le langage des jeunes qui parlent, surtout à Paris. Voilà. Ils oui. ont un, 200 mots de vocabulaire.
Oui.
Voilà. Moi, j'en ai peut-être 30 000, 40 000. Toi, t'es pas conne, t'en as peut-être 100 000, peut-être.
Je pense
pas. Je sais pas.
Je pense pas. Et est-ce que tu pourrais nous parler de cette association donc, que tu as fondée, la Bergerie du Faucon, suite à toute cette aide aux jeunes? Cette bergerie propose donc de réinsérer les jeunes. Comment ça se passe au quotidien? Enfin, comment est née déjà cette association?
Non, j'ai écouté les jeunes, une bande de jeunes dans le 19e que je connaissais depuis un an, m'avait dit « Guy, on en a marre de ce putain de quartier, de la drogue, l'alcool, etc. Trouve une ruine loin de Paris, on la rebâtira avec nos mains et de vraies pierres. » J'ai acheté la ruine parce qu'une bonne vieille m'avait donné 50 000 francs et j'ai acheté une ruine. Pire que cette ruine, tu meurs. Une ruine complète. Et les jeunes ont dit, on la rebâtira. Et 250 jeunes de mon quartier l'ont rebâtie. Ils ont mis 8 ans pour la rebâtir. Avec des maçons, éducateurs, évidemment.
Ah oui.
Alors, une fois bâtie, je me suis aperçu que les jeunes, il n'y a plus rien à foutre. C'était fini, c'était bâti. Je me suis aperçu on avait quelques bestioles, et une vache cancéreuse, une chèvre sidaïque, on avait de quelques... Et je me suis aperçu qu'ils aimaient énormément les bêtes. Alors, j'en ai acheté une, deux, trois, et maintenant, il y a 120 bêtes là-bas. 120 bêtes de 20 espèces différentes. Il y a des chameaux, il y a des ânes, il y a des lamas, des kangourous...
C'est un vrai zoo.
Il y a des... Comment ?
C'est un vrai zoo.
Ça fait un peu zoo, oui. Ce qui fait qu'il y a plus de 3000 personnes qui viennent nous visiter l'été pour voir évidemment la baraque, comment elle a été construite, et surtout pour voir les bêtes. Et ce sont les jeunes qui font visiter les animaux aux gens. Ils font visiter leur... Voilà.
D'accord, donc leur quotidien, c'est ça, c'est de s'occuper des animaux
et... Non. Au début, ils leur donnent à manger le matin et le soir. Mais ils ont une approche vis-à-vis de l'animal qui est vraiment excellente. L'animal a une vertu d'attachement important. Et puis les jeunes me disent toujours, les bêtes ne trichent pas et les bêtes ne mentent pas. Et ils ont totalement raison. Comme ils ont été détruits par le manque de famille, ils trouvent chez la bête un attachement, un lien qui les émerveille. Voilà. Tu vois, par exemple, on a deux chameaux, l'un qui est hiératique, qui est noble, ils l'ont appelé Obama. Bien. Et un autre, qui est mort assez souvent, ils l'ont appelé Ben Laden. Alors, voilà.
Ah, oui,
mais
d'accord.
Il les dresse, il les couche par terre, il les dresse très bien. C'est très sympathique.
Ah, c'est super cette approche. Et ils retrouvent une estime d'eux-mêmes petit à petit, comme ça.
Ils découvrent derrière la bête un attachement, d'abord. Et puis, la deuxième chose qu'ils découvrent, c'est... Ils sont attendus, ils sont appréciés, ils sont aimés, parce qu'ils donnent à manger, et puis ils donnent des caresses. L'animal a une force On découvre ça depuis des années maintenant. Avant, on découvrait comment ils baisaient les animaux, comment ils mangeaient. Et puis, on a découvert petit à petit, il y a une vingtaine d'années, que l'animal pouvait nous apporter beaucoup de choses. Par exemple, les Guadeloupéens qui ont un chien fidèle, l'aimeront. Peut-être pas les chats, moins. Ils aiment bien les chats, mais le chat est plus... mais le chien est très attachant. Enfin, oui. J'ai toujours eu des chiens, c'est très, très, très attachant. Alors, ils n'ont pas une âme, les bêtes. Mais tu sais, certaines bêtes sont tellement sensibles, tellement sentimentales, ont tellement d'affection qu'on pourrait, imaginer qu'ils ont une âme.
Oui.
Enfin, moi, certains clébards que j'ai eus étaient extraordinaires et je me disais, ils ont peut-être une âme tellement ils sont chouettes. Hein.
Oui.
Ouais. Enfin bon. Bon, ben, ça c'est pas le but de cette émission. Hein. Mais les jeunes, ils sont analphabètes, ils sont pas allés à l'école. Ils sont déchirés par les parents, ils sont divorcés tous à 100%. Ils commencent par les animaux, et puis ensuite, il faut qu'ils aillent à l'école. Ils n'aiment pas l'école, mais on les oblige à aller à l'école, à apprendre, à écrire, etc. Donc, on a une petite école à Faucon, et quand ils sont sages, ils vont à l'école à Castellade, à 30 km. Voilà.
Mais ils ont quel âge, ces jeunes ?
De 13 à 15 ans.
Ah, ce sont des vraiment très jeunes.
Ah oui, de 13 à 15 ans, oui. Oui. Je les avais avant à 16 ans, à 18 ans, mais ils étaient tellement violents que les éducateurs partaient très vite. Donc j'ai pris des plus petits. Ils sont chiants. 13, 15 ans, ils sont chiants. Mais
oui.
ils sont violents aussi, mais on peut les mater, si tu veux. Enfin, on peut, ils peuvent se faire écouter, etc. Parce que les 18 ans, c'était trop difficile. Et les éducateurs sont allés. Et puis, c'était mixte pendant 5-6 ans. Et au niveau sexuel, il y a eu des incidents nombreux. Et j'ai arrêté avec les filles. Pour leur permettre de vivre dans l'attachement mutuel, mais pas dans l'amour qu'ils peuvent avoir avec une fille, surtout que la plupart baissent comme des castors et ils n'ont qu'une envie, c'est de baiser une fille, tu comprends ? Alors oui. Que c'est pas la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est sûr.
Oui, ah oui. Donc du coup, c'est plus simple. Il y a combien de jeunes alors maintenant ?
Oui, il y en a. L'État ne veut pas qu'ils soient moins de 10. Voilà. Parce qu'ils sont vraiment très difficiles. On a des cas vraiment très durs. Donc, on accepte. On prend les plus difficiles, de toute façon.
Ah oui.
Ceux qui ont été foutus à la porte, souvent d'un peu partout. Oui.
Alors, comment vois-tu son avenir ? Comment verrais-tu son avenir à cette ferme des Faucons ?
Eh bien, écoute, ils partent vers 16 ans de Faucon, ils vont faire des stages après, la DAS s'en occupe, et quand ils sont 18 ans, qu'ils sont complètement paumés, moi je m'en occupe à Paris avec une autre équipe. Je garde la main tendue jusqu'au bout, c'est la main de l'homme et c'est la main du Christ en même temps. Ne pas les laisser dans les ténèbres, voilà. C'est très important pour moi, ça.
Ah oui. Donc, ils se sentent jamais lâchés, livrés à eux-mêmes. Ça, c'est... Ouais.
Non. S'ils veulent me lâcher, pas de problème. Je ne dis rien. Je ne cherche pas à les attirer. Non. Mais s'ils ont besoin de quelque chose, ils savent très bien qu'à 18 ans, ils ont mon téléphone et c'est ce que je vis à Paris, là. Je suis président d'une association laïque de prévention. J'ai 17 éducateurs salariés et quelques bénévoles. Et voilà.
Elle s'appelle comment, cette association ?
Bergerie de Foucault. Association Bergerie de Foucault, parce que la ruine se trouvait à côté, dans les Hautes-Provence, et les gens l'avaient appelé Faucon, parce qu'il y avait beaucoup de faucons dans la nature.
Ah d'accord, donc c'est la même association qui s'occupe après à Paris des plus de 18 ans.
Oui.
D'accord.
Sauf qu'à Paris, la DAS, une fois qu'elle a aidé et payé pour qu'on élève des jeunes jusqu'à 18 ans, elle lâche le jeune. Et moi, je m'en occupe, ça, grâce aux dons des gens, je m'en occupe à Paris, parce que la DAS ne paye pas, aucun organisme ne paye pas. Et c'est assez difficile, payer un loyer, payer l'électricité d'un mec, etc., c'est pas évident.
Oui.
Mais grâce aux dons, on peut arriver à satisfaire ce principe de ne jamais laisser quelqu'un dans la merde.
Très bien. Et je voudrais te demander aussi, est-ce que tu aurais quelque chose qui te tient à cœur encore à partager, un petit mot de la fin?
Je dirais que ceux qui écoutent cette émission, soyez des vagabonds d'espérance, soyez des vagabonds de l'amour, soyez des vagabonds de l'écoute. Si vous divorcez, aimez vos enfants. Que le père dise pas que sa mère est une salope, que la mère dise pas que son père est un macro, mais respectez-vous, même si vous êtes séparés. Et aimez vos gosses. Si vous êtes toujours en train de taper sur le conjoint qui est parti, vous faites du mal aux gosses. Mais si vous le respectez, même si vous ne pouvez pas vivre ensemble, soyez respectueux, soyez des hommes et des femmes de respect pour apprendre à des jeunes déchirés par des couples qui sont séparés, pour leur apprendre le respect. Voilà ce que je dirais.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis, bonne continuation avec cette ferme, avec cette bergerie du Faucon.
Et... Oui, ça fait 42 ans qu'elle existe.
Hein. Ah oui, 42 ans, c'est énorme.
J'ai acheté la ruine, les jeunes l'ont faite et ils habitent dedans depuis 42 ans. Allez, au revoir à tous les Guadeloupéens que j'aime. Et bon courage. Soyez des hommes et des femmes d'espérance et d'amour.
Merci Guy. Merci Guy. Au revoir.
Allez, au revoir.
Je voulais juste te préciser que comme c'est une web radio, c'est écouté partout, pas qu'en Guadeloupe.
Tant mieux.
Voilà.
Allez. Merci. Que ça passe du bien. À bientôt.